Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Comme vous le savez, Édouard Philippe a prononcé hier à l'Assemblée nationale sa deuxième déclaration de politique générale pour ce qui doit marquer, selon ses voeux, le point de départ de l'acte 2 du quinquennat. Que faut-il retenir des annonces qui ont été faites à cette occasion? Pour en parler, je suis en compagnie de Pierre-Henri Tavoyau. Bonjour, vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne, président du Collège de philosophie, ancien membre du Conseil d'analyse de la société auprès du Premier ministre, et vous avez notamment publié « Comment gouverner un peuple roi ?» C'est aux éditions Odile Jacob. Pierre-Henri Tavoyau, que retenez-vous de cette déclaration de politique générale?
D'abord, un petit aveu, en fait, je l'ai écouté en différé hier. Et je me suis trompé, j'ai écouté la première, celle de juillet 2017, donc juste après les élections. Et j'ai écouté assez longtemps en me disant, voilà, finalement, c'était la bonne. Et bon, avant de m'en apercevoir. Et donc, ce qui m'a frappé, en fait, c'est deux choses. C'est d'abord qu'il n'y a pas de grand changement dans les axes généraux de la politique. Il y a un changement de ton. C'est-à-dire que le lyrisme initial a fait place, incontestablement, à beaucoup plus de volontarisme. Il y avait une volonté de montrer qu'on allait être concret, et ça transparaît. Les cinq axes qui ont été développés témoignent effectivement, après les élections européennes, du fait que l'écologie arrive vraiment en tête des préoccupations et des soucis, donc il y a un signal fort. Pour le reste, c'est pas des changements bouleversants. Et la question qui reste quand même posée, la logique et la cohérence est là, la question qui reste posée, c'est effectivement la question du financement. Et la question notamment de l'endettement de la France qui reste toujours présent. Et là-dessus, c'est vrai qu'on est un petit peu dans un horizon qui est très incertain.
L'écologie, c'est effectivement, Pierre-Henri Tavoyau, ce que beaucoup de commentateurs ont retenu. On va écouter l'un des passages qu'Édouard Philippe a consacré à cette politique verdie. Peut-on lire ce matin dans les journaux?
Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Je connais les soupçons me concernant. Mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Je crois possible un nouveau modèle économique qui produise des richesses, donc de l'emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous.
Donc, un extrait de la seconde déclaration de politique générale. Je ne sais pas si vous l'avez entendu hier. En tout cas, dans la première, il ne parlait pas d'écologie, Édouard Philippe. Il évoque les soupçons. Alors, peut-être fait-il référence notamment aux années qu'il a passées chez Areva. Il y a en tout cas un verdissement noté par les observateurs. Un verdissement, malgré tout, quand il dit que personne n'a le monopole de l'écologie, lui a une conception particulière de l'écologie, Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, je le cite, il dit « Il faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. » Alors, ce qui est intéressant dans sa position, c'est qu'il c'est un peu un repenti sur la question en disant « Voilà, comme beaucoup de Français, j'ai changé sur ce sujet qui est devenu au cœur de mes préoccupations. » Et le deuxième point qui est intéressant, c'est de dire « Je ne suis pas un apôtre de la décroissance », c'est-à-dire que je ne suis pas ce qu'on appelle la deep ecology ou l'écologie radicale, où les idéalistes écologistes, comme on dit notamment en Allemagne, entre les réalos qui sont des gens qui sont dans le pragmatisme, et puis ceux qui envisagent plutôt une conversion, c'est-à-dire véritablement un changement total de système, et donc ils s'inscrivent très nettement dans la posture réaliste, réalos, et avec toute d'une certaine façon un ensemble de mesures dont le but est de rendre possible ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable. C'est-à-dire, grosso modo, il y a deux grandes écologies aujourd'hui, l'écologie de la décroissance et l'écologie du développement durable. Il s'inscrit dans le deuxième mouvement.
Ce qui est plutôt une manière, atténuée de faire de l'écologie, ce qui n'est en tout cas pas une manière qui fait consensus parmi tous les écologistes ou parmi toutes les sensibilités écologistes, Pierre-Henri Tavoyau.
Oui, alors ça, chacun a son opinion là-dessus.
Mais justement, j'aimerais la vôtre.
Moi, la mienne est très, très clairement dans cette perspective-là, c'est-à-dire qu'ils ont une écologie réformiste et non pas révolutionnaire, parce que pour deux raisons. C'est simplement l'axe de l'efficacité. Si on s'engage dans une révolution, ça exclut inévitablement toute une série de personnes et cette politique n'aura aucune efficacité. Donc les révolutionnaires sont des radicaux qui, à mon sens, n'ont aucune chance de réussir quoi que ce soit. Donc l'option réformiste, c'est-à-dire d'adapter le système de production à des perspectives de développement durable, me paraît effectivement plus efficace, tout simplement plus efficace, au-delà des idéologies.
Mais si les risques que nous courons sont radicaux, est-ce qu'il ne faut pas des mesures radicales ?
Alors, la question des risques est intéressante, parce qu'aujourd'hui, dans le débat écologique, il y a grosso modo trois risques majeurs. Il y a la question du réchauffement climatique, il y a la chute de la biodiversité et il y a l'épuisement des ressources naturelles. Ce qu'il faut bien voir, c'est que en fonction de la hiérarchisation de ces trois objectifs, ce sont des politiques qui sont différentes et potentiellement contradictoires. Par exemple, le nucléaire est une très bonne chose pour lutter contre le réchauffement climatique, mais on peut considérer que pour l'épuisement des ressources naturelles, c'est pas forcément grandiose. Pour les pollutions, ça peut être grave et pour l'avenir, c'est important. Et donc, il y a des choix à faire. J'allais dire, le grand défi, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui sur la question écologique, c'est que la question n'est pas ce qu'on veut faire, sauver la planète, évidemment, tout le monde veut le faire, ça c'est pas un problème, mais la question c'est comment. C'est comment, c'est-à-dire comment et selon quelle hiérarchisation. Et c'est en ce sens que le débat aujourd'hui doit devenir un débat un peu technique, c'est comment on articule ces objectifs et qu'est-ce qui nous paraît aujourd'hui le plus urgent. Il pourrait très bien, certains le disent, que la perte de la biodiversité est beaucoup plus urgente que la lutte contre le réchauffement climatique, sur lesquelles on a des incertitudes à l'égard des mesures qu'il faudrait conduire.
Mais alors, du coup, Pierre-Henri Tavoyot, les mesures annoncées par Édouard Philippe hier ont pu passer aux yeux de certains pour dérisoires. C'est-à-dire, on a entendu par exemple que c'était évidemment très bien que l'administration renonce aux gobelets en plastique, mais que ça n'est pas cela qui allait sauver la planète.
Non, sauver la planète, franchement, cet objectif, il faut ressortir de là, parce qu'on est d'abord la planète on tirera très bien sans nous, donc il ne s'agit pas de sauver la planète, il s'agit...
Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous.
Oui, mais il faut être...
Une blessure narcissique.
C'est un slogan qui est un slogan qui n'a strictement aucun sens, enfin. Et toute la question, c'est de savoir, effectivement, le type
de... Il n'a peut-être aucun sens, mais il y a quantité de jeunes qui sont dans la rue avec ce slogan.
Je maintiens que ce slogan n'a aucun sens. Voilà, même si beaucoup de gens y croient, ça rassemble sur des objets. C'est comme si manifester contre la mort, contre la maladie, contre la guerre. Enfin, le truc n'a aucun sens. Il faut telle mort, telle maladie, telle guerre, oui, d'accord. Donc là, il faut être un tout petit peu, justement, faire un peu de politique. Donc, il n'y a aucune raison de faire de la démagogie. Donc, il faut effectivement envisager un certain nombre de mesures et voir celles qui sont les plus efficaces. Et moi, je ne suis pas du tout scandalisé. Si vous voulez, le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire la question d'éradiquer les plastiques de l'administration, c'est une bonne mesure. Voilà. Alors, ça ne va pas sauver la planète, en effet, mais c'est une bonne mesure, très simplement. Donc, il ne faut pas cracher là-dessus en disant que c'est dérisoire, parce que c'est toujours l'axe de la radicalisation. Parce que c'est pas la solution, le solutionnisme absolu, on critique. Non, c'est une mesure parmi d'autres, voilà, très simplement.
En dehors donc de ce point qui a été jugé comme nouveau, en quoi ce discours hier annoncerait-il un acte 2 ? Alors là aussi, les commentateurs qui commentent parfois sévèrement Pierre-Henri Tavoyot considèrent qu'il s'agit par exemple plus d'un acte 1 bis, c'est ce que dit Libération ce matin.
Honnêtement, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit un acte 2, c'est un petit infléchissement. Alors, ce qui est intéressant, malgré tout, c'est la prise en compte très claire d'un certain nombre d'erreurs qui ont été commises.
Lesquelles?
Par exemple, les 80 km/h, Édouard Philippe en fait une allusion claire. Le fait d'avoir fait une sorte de politique jupitérienne, c'est-à-dire, c'est pas parce que les corps intermédiaires, ça c'était le diagnostic d'Emmanuel Macron, allaient mal, qu'il faut pour autant les enfoncer. Et ce qu'il faut pour autant les écraser, j'allais dire, il faut en quelque sorte, au contraire, plutôt les renforcer, les syndicats, le dialogue social. C'est pas parce que ça dysfonctionne qu'il faut les écarter. C'est pas parce que les élus ou les territoires fonctionnent mal qu'il faut les mettre, les accabler encore plus. Donc de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un vrai changement de politique qui s'exprime de deux manières. D'une part, le fait que Macron se met un tout petit peu en recul, reprend sa position jupitérienne, mais au sens de l'éloignement et non pas au sens
de l'effacement jupitérien. Voilà.
Et deuxièmement, le fait que j'ai été très frappé, hein, c'est subtil, c'est pour ça qu'il est aussi intéressant de lire le texte, que Édouard Philippe n'a cessé de faire allusion à des initiatives qui venaient du Parlement. Donc il renforce en quelque sorte le dialogue du Parlement, et ça c'est plutôt des signes positifs, c'est pas révolutionnaire non plus. Hein.
Mais alors c'est un peu contradictoire, parce que vous dites finalement cet acte 2 dans les mots qu'a choisi Édouard Philippe hier, et il faisait preuve de volontarisme. Alors précisément le 80 km/h, c'était un acte de volontarisme politique qui finit un peu en quenouille, puisque les départements, les maires vont avoir la possibilité de revenir là-dessus. Et alors bon, ça laisse augurer de l'avenir, alors même qu'en toute rationalité, y compris pour les amoureux de la voiture, la limitation de vitesse sur les routes pouvait être perçue quand même comme un facteur de sécurité routière, un facteur probant, non, Pierre-Henri Taboyau?
C'est un facteur probant, mais c'est un facteur ultra agaçant. C'est-à-dire que moi, je suis parisien, j'ai pas de voiture, donc ça me concerne pas. Mais il suffit que j'aille en province, dans ma province natale, pour m'apercevoir qu'il y a un côté insupportable. On prend sa voiture assez souvent, et les moindres routes nous font basculer sur 10 km avec une dizaine de changements de vitesse et la possibilité de se faire aligné par un radar 10 fois. Donc ça, au quotidien, c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable, et ça, il faut admettre que
bon, même les philosophes manquent de sagesse. Alors,
non, mais c'est vrai que c'est là un sentiment de flicage pour des choses qui nous sont personnelles. Donc il y a une sorte de surenchère bureaucratique, même sur les routes. Sur le volontarisme, je pense que le point important, c'est ce qui se dessine dans ce discours, c'est le volontarisme de la concertation. Il me semble, c'est ça le politique. J'ai été sensible à une phrase qui m'a, quand j'ai relu le texte. Dans ma vie de maire, j'ai pu constater qu'écouter, c'est toujours mieux pour se faire entendre. Donc ça, c'est un bon schéma d'art politique. Et il me semble que après l'espèce d'exaltation du début, ce retour à une forme de sagesse en écoutant les territoires, en écoutant les partenaires sociaux, me paraît de bon augure, et c'est le signe le plus positif que je vois de ce discours de politique générale.
Oui, mais alors au-delà de ça, lorsqu'on reprend la morale de ce texte, si celui-ci en a un, selon vous, Pierre-Henri Taboyau, est-ce que cela veut dire que le politique peut encore quelque chose, ou bien il est là pour écouter un peuple roi, pour reprendre le terme qui sert de titre à votre dernier ouvrage?
Non, le politique est là, et c'est dans ce discours-là ce qui me semble le plus faible, c'est-à-dire que la politique a besoin d'un budget. J'allais dire la condition de l'efficacité.
80 km/h, ça ne coûte rien.
Non, ça coûte rien, mais c'est pas non plus la mesure qui va tout changer. C'est pas la mesure révolutionnaire. Or, on a aujourd'hui une situation budgétaire qui est véritablement calamiteuse, un endettement de la France qui frôle 100% du PIB, et donc la lutte contre, de la rigueur budgétaire et la lutte contre l'endettement, c'est pas simplement un souhait d'économiste. C'est trois choses. C'est l'endettement, c'est un boulet politique, ça empêche de mener des politiques ambitieuses. C'est un boulet pour l'Europe, parce qu'au sein de l'Europe, ça déstabilise et ça fragilise la politique de la France. Et c'est un boulet pour l'avenir, parce que par rapport à l'avenir, cet endettement, c'est évidemment obérer les... comme on le dit, c'est les jeunes qui vont payer, c'est nos enfants qui vont payer. Donc de ce point de vue-là, le fait qu'un discours de politique générale, acte 2, soit aussi peu... insistant sur les questions budgétaires et les questions de financement, là, ça me paraît pour le coup inquiétant.
Alors ça, c'est ce que dit le Figaro lorsqu'il estime que la droite déplore le manque d'économie qui était annoncé hier. Mais encore une fois, au-delà de ça, oui. On voit mal ce que ce pouvoir, qui a été quand même sévèrement ébranlé par la crise des Gilets jaunes, va essayer de mettre au devant de la scène. Vous n'êtes pas d'accord?
Oui, peut-être pas ébranlé, parce que en vérité, la crise des Gilets jaunes a été plutôt perçue par Emmanuel Macron, et je pense à juste titre, comme une bonne occasion. C'est comme une bonne occasion.
Vous pensez pas que c'est de la rhétorique de
dire
ça?
Non, c'est pas de la rhétorique. C'est-à-dire, les démocraties sont très difficiles à gouverner par ton calme. Pourquoi? Parce que par ton calme, les conflits sont énormes, tout le monde donne son avis, tout le monde s'indigne, les camps se délitent un peu. La démocratie est beaucoup plus efficace en temps de crise. Nos présidents de la République passée ont été assez mauvais par ton calme, Sarkozy et Hollande, ils ont été très bons en temps de crise, tous les deux. Sarkozy au moment de la crise financière et Hollande au moment des attentats. Et d'une certaine façon, le politique, l'homme politique se mesure, et sa qualité, à sa capacité à de réagir en temps de crise. Or, il me semble que l'exécutif a perçu cette crise des Gilets jaunes comme effectivement un oubli de leur part. Ils ont oublié les territoires, ce qui pour la part de côté d'Edouard Philippe était quand même assez surprenant. Ils ont oublié les territoires, et ça a été l'occasion, non pas d'être ébranlé, mais au contraire de réincorporer ces territoires à la politique. La grande leçon des Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes ont gagné, et la République aussi. Ils ont gagné parce qu'ils ont été entendus. C'est-à-dire que les territoires et la déstructuration des territoires, les Gilets jaunes n'étaient pas des révolutionnaires. Ils voulaient, comme le dit Denis Maillard dans un excellent livre qui s'appelle une colère française, ils veulent se mettre à la table. Ils veulent pas renverser la table, ils veulent se mettre à la table. Et donc, ils veulent être entendus et participer à l'économie.
Mais alors, sur quel point ont-ils eu gain de cause? Alors, il y a eu des annonces hier en matière d'impôts qui touchent plutôt les classes moyennes inférieures, mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous voyez qui pourrait signifier que le pouvoir a entendu les Gilets jaunes, Pierre-Henri Tavoyer?
C'était la réaction d'Edouard Philippe à la crise des Gilets jaunes et au grand débat. La première réaction, il a dit une chose très claire, la France, dans les années 50, c'était Paris et le désert français. Aujourd'hui, c'est Paris, les métropoles et le désert français. Paris, les métropoles ont réussi.
Sur le constat, on est d'accord.
Mais justement, c'est que l'axe politique à venir, c'était effectivement d'intégrer les zones territoriales périphériques, comme on dit, et un axe politique fort qui devait se décliner et qui passait par une attention faite aux maires. Et donc, c'est cette troisième orientation qui me paraît être enclenchée. Je dis pas que la solution est là, mais c'est au-delà des questions de pouvoir d'achat, d'impôts, etc. C'est cet objectif qui consiste à dire nous devons impérativement intégrer non seulement les territoires perdus de la République, mais aussi cette France périphérique à l'adaptation de la France à la modernité.
Oui, mais alors si on prend par exemple le Parisien du jour qui commente les annonces d'Edouard Philippe, Pierre-Henri Tavoyot, on évoque la retraite, l'écologie, la bioéthique, bref, aucune des demandes des Gilets jaunes, des baisses d'impôts, mais finalement, les Gilets jaunes demandaient des baisses de taxes, c'était au-delà finalement des économies d'impôts pour certaines tranches d'imposition, donc ont-ils été vraiment entendus? Fallait-il les entendre? Enfin, deux questions.
Vous connaissez les revendications des Gilets jaunes, vous? Vous êtes capable?
Je suis capable d'énumérer un certain nombre de revendications que j'ai entendues.
Non, je pense que les Gilets jaunes sont un mouvement qui était protéiforme, qui demande à être interprété. C'est-à-dire que c'est pas les revendications qui sont extrêmement variées, contradictoires, qui les expriment. C'est un mouvement qui demande à être interprété. Et ce mouvement, je l'interprète personnellement comme cette France périphérique qui, ni riche ni pauvre, demandait à être incluse dans la République.
Pierre-Henri Tavoyon, on vous retrouve dans une dizaine de minutes pour continuer à évoquer cet acte 2, 1,5. Bref, chacun le qualifiera comme il le souhaite suite au discours de politique générale d'Edouard Philippe, le Premier ministre. Vous serez rejoint par la politiste Agathe Cagé. Nous sommes en compagnie de Pierre-Henri Tavoyot, philosophe, et nous accueillons Agathe Cagé, politiste, secrétaire générale de la campagne de Benoît Hamon lors de l'élection présidentielle de 2017. Vous êtes coordinatrice et cofondatrice du think tank Cartes sur Table et vous avez notamment publié « Faire tomber les murs » chez Fayard. Une remarque, un commentaire sur ce qui a été dit au sujet de la politique, de la déclaration pardon, de politique générale d'Edouard Philippe.
Moi, quand j'entends parler d'Axe, ça me fait plutôt penser aux tragédies grecques. Ce qu'on a entendu hier dit beaucoup. Avant de dire quelque chose de l'acte 2 de la suite du quinquennat, ça dit quand même beaucoup de l'acte 1. Un acte 1 qui était marqué par la démission de Nicolas Hulot parce que Edouard Philippe semble découvrir aujourd'hui l'urgence écologique. Un acte 1 qui était marqué par une crise sociale d'une ampleur rarement égalée en France parce que Edouard Philippe semble découvrir aujourd'hui l'urgence sociale. Un acte 1 qui a été marqué par une crise au cœur du pouvoir extrêmement forte qu'on l'appelle circonstances, qu'on lui donne des noms relativement plus précis. Donc on a eu un discours du politique général qui dit aux Français, pendant 2 ans nous nous sommes installés, c'était l'acte de l'installation. Pendant un quinquennat, 2 ans d'installation c'est peut-être un peu long, il reste 3 ans au Premier ministre pour agir. Il a présenté aux députés un calendrier parlementaire. Est-ce qu'il a présenté aux Français une vision, un cap pour la suite? C'est plus difficile à dire.
Quel cap? Alors, dans ce cas-là, si le cap est inchangé, comment le qualifieriez-vous, Agathe Cagé?
C'est un cap de gestion de la situation française qui est tourné avant tout vers la réduction des dépenses publiques. Alors certes, il y a des baisses d'impôts en direction des classes moyennes qui ont été précisées par Édouard Philippe. Elles n'ont pas été annoncées. Elles avaient été annoncées précédemment par le président de la République. Donc on a eu un peu de précision sur ce point-là. On a un point de rupture qui a été présenté avec la réforme des retraites, cette apparition d'un âge d'équilibre qui de facto met fin à l'âge légal de la retraite à 62 ans. Pour le reste...
Pourquoi ? Expliquez-nous.
L'âge d'équilibre tel qu'il était présenté par Édouard Philippe, c'est dire aux Français, vous pourrez toujours prendre votre retraite à 62 ans, mais jusqu'à cet âge d'équilibre qui n'a pas encore été défini, qu'on attend vers 64, 65 ans, de facto, vous aurez une retraite moindre par rapport à votre retraite à taux plein. Si les Français partent à 62 ans avec une retraite et une pension qui est inférieure de 10, 20, 30% à leur pension à taux plein, on sait que les Français ne pourront pas le faire. Ce qu'Édouard Philippe n'a pas évoqué hier, par contre, c'est la difficulté de l'emploi des seniors, parce qu'avoir un âge... légal ou un âge d'équilibre à 62, 64 ou 65 ans pour des personnes qui n'arrivent plus à avoir d'emploi stable. Pour une partie d'entre elles, à partir de 55, 58 ou 60 ans, ça paraît extrêmement compliqué.
Alors, un tournant social, alors c'est évidemment ce que certains dans la majorité essayent de souligner, notamment en matière de réduction d'impôts. Alors, il y a différents calculs qui sont dans la presse ce matin. On voit par exemple que pour un célibataire parent isolé avec un enfant, parce que à la faveur de la crise des gilets jaunes, on a beaucoup parlé de la situation des mères célibataires. Donc, lorsqu'une personne gagne 2600 euros avec un enfant, eh bien, elle aura un gain annuel de 225 euros suite aux réductions d'impôts. Grosso modo, on a affaire à 300 euros d'économie pour les contribuables et pour des tranches qui sont les premières tranches de l'impôt sur les revenus, c'est social, ça, Agathe Cagé.
C'est une mesure qui devrait redonner du pouvoir d'achat à un certain nombre de Français. Après, quand on compare 350 euros à ce qu'ont pu gagner les personnes qui ont bénéficié de la suppression de l'impôt sur la fortune, les rapports financiers ne sont pas du tout les mêmes.
Mais malgré tout, est-ce que c'est un tournant, une inflexion, bref, comment pourriez-vous le qualifier, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne compte pas ou compte marginalement ?
Sur les réductions d'impôts, ça avait été annoncé par le président de la République, donc le gouvernement d'Édouard Philippe va mettre en œuvre les annonces qui ont été faites. Sur le reste des sujets, PMA, c'est une annonce présidentielle qui avait été mise en... Enfin, c'était une promesse présidentielle avec un retard de mise en œuvre, et là on a la mise en œuvre de cette promesse présidentielle. On n'a aucune nouveauté par ailleurs dans ce qui est annoncé par Édouard Philippe, lui-même dit avoir pris conscience de l'urgence écologique. Sans doute la politique qu'aurait conduit ces derniers mois Nicolas Hulot aurait permis d'avancer beaucoup plus vite.
Même si ça n'était pas effectivement une surprise pour la PMA, c'est quelque chose qui a été réitéré, qui aurait après tout pu être oublié. C'est une mesure qui, a priori, ne correspond pas peut-être à ce sentiment que ce gouvernement pourrait être plus à droite que du centre. Et cette mesure, la PMA, elle risque d'être considérée comme un chiffon rouge par une partie de la droite, Agathe Cagé.
On a un gouvernement qui ne parle pas uniquement à la droite, on a un gouvernement qui parle également au centre-droit.
Qu'en pensez-vous, Pierre-Henri Tavoyau ?
Je voudrais dire un petit mot sur les retraites. Parce que je trouve que là, il faut vraiment prendre du recul par rapport à cette question des retraites. La retraite a été conçue comme, à l'origine, le fait d'avoir un court temps de repos après une longue vie de labeur. D'ailleurs, un court temps de repos le plus court possible. D'ailleurs, on disait qu'à l'époque, quand Bismarck l'inventait, c'était la retraite pour les morts. C'est-à-dire que l'âge de la retraite excédait l'espérance de vie. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On a une révolution de la longévité, et cette révolution de la longévité fait que la retraite, c'est aujourd'hui un long temps de quelque chose après une vie de labeur de plus en plus brève. Donc de toute façon, il faut changer de logiciel. Et de ce point de vue-là, je trouve que la mesure qui consiste à dire âge légal, 62 ans, et âge d'équilibre. Équilibre pourquoi ? Pourquoi l'expression est intéressante ? Parce que c'est l'équilibre des comptes, tout simplement, me paraît quelque chose d'assez raisonnable compte tenu des réalités. Mais je voudrais ajouter un point, c'est que la retraite est souvent perçue comme un droit. C'est le cas. Mais c'est aussi une brisure dans l'existence. Le jour où vous êtes à la retraite, vous sortez en quelque sorte du monde de votre identité, pour une bonne part. Et donc, le fait de se focaliser sur la retraite droit empêche de voir que cette retraite est aussi une brisure. Et c'est aussi quelque chose, dans un cadre d'une longévité accrue, qui fait que cette période de la vie qui se dégage et qui va durer de plus en plus longtemps, une des conditions pour faire en sorte que nous soyons en forme, c'est aussi l'activité. Et donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas raisonner uniquement en termes financiers, mais aussi en termes existentiels.
Vous voulez dire que c'est finalement une mesure de salubrité publique que oui, d'inciter les gens à...
Absolument, absolument. C'est une mesure d'inciter, c'est-à-dire de se dire individualisons le plus possible cet âge.
Agathe.
L'individualisation de fait exister déjà, parce que l'âge légal n'est pas un âge de départ obligatoire aujourd'hui à 62 ans, oui. Et l'activité n'est pas forcément uniquement une activité professionnelle. On connaît l'engagement d'un grand nombre de retraités dans les activités associatives, caritatives, de soutien familial. Je pense
ou les maires, l'activité politique. La retraite également subventionne la politique locale.
Également. Donc je pense que oui, il y a une brisure parfois de quitter une activité professionnelle. Quitter une activité professionnelle ne signifie pas quitter toute activité. C'est aussi permettre de repenser le sens
pour les classes de son engagement dans la société. Pour les classes les plus favorisées. C'est-à-dire qu'en général, effectivement, quand il y a d'autres éléments, mais une personne qui a travaillé toute sa vie avec une focalisation vraiment sur l'activité sans extériorité, effectivement, la retraite est une brisure extrêmement importante. Cette dimension est très peu présente dans le débat. C'est pour ça que ça me paraît vraiment important de la rappeler.
Agathe Cagé.
C'est certain, là, je suis totalement d'accord avec vous. Le débat aujourd'hui est présenté exclusivement du point de vue financier, alors que le débat est quand même beaucoup plus global sur le sens qu'on veut donner aux différents âges de la vie, sur le sens qu'on veut donner aussi le Premier ministre a commencé à l'évoquer hier, à comment on va prendre en charge les différents âges de la vie, comment on va prendre en charge la dépendance, comment on va prendre en charge aussi la reconnaissance de l'implication d'un certain nombre de Français dans le soutien familial et pas nécessairement dans une activité lucrative. Voilà.
De façon générale, cette politique des âges de la vie est encore largement à construire.
Au-delà de cela, ou indépendamment plutôt de la question des retraites, la question de la PMA, Pierre-Henri Tavoyot, qu'en pensez-vous en tant que philosophe ?
Moi, personnellement, ça me paraît une mesure qui, politiquement, va de soi, c'est l'évolution de la société. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, je ne vois pas tellement... Parce que sur ces questions de bioéthique, il faut toujours se poser la question. C'est pas la question, c'est qu'est-ce que j'en pense ? Quelle est ma conviction ? C'est au nom de quoi serais-je à même de l'interdire ? C'est ça l'argument. Donc, les questions de conviction personnelle, en la matière, doivent vraiment passer au second plan. La PMA me paraît difficilement... il est difficile de la proscrire avec des arguments qui seraient des arguments rationnels acceptables par tous démocratiques. Alors, la question qui se pose, c'est pas tellement la PMA qui me paraît une évolution sociale presque incontournable, c'est les questions qui sont annexes sur lesquelles on n'a absolument aucun détail pour le moment, c'est-à-dire la question de la filiation et la question du remboursement. C'est ces débats-là qui vont être les débats les plus importants. Et c'est là où on voit, je rajoute un point pour prendre un tout petit peu de recul, c'est que sur toutes ces questions qui sont des questions nouvelles, on avait jusqu'à présent un critère, et ça concerne aussi la médecine, ça concerne ce qu'on appelle le transhumanisme de façon générale, on avait un critère qui paraissait clair entre une logique qu'on dirait réparatrice, c'est-à-dire, voyez, la PMA c'est pour des couples qui n'ont pas la possibilité de procréer, donc réparatrice, et une logique amélioratrice ou augmentative. Et ce critère, en fait, ne tient pas. C'est un critère trop compliqué, il est trop difficile, et on voit que là, il faut effectivement une réflexion qui soit au cas par cas.
Bon, mais la critique adressée à la PMA, je peux la résumer. Oui. En tout cas, l'une des critiques qui est adressée, c'est ce que certains appellent le bouleversement anthropologique. Oui. L'idée, finalement, que la société ne serait plus comme avant si les modes de procréation étaient modifiés.
Oui, il y a l'argument de la nature, mais franchement, l'argument de la nature ne tient pas, parce que rien n'est naturel dans notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, au sens strict du terme, la procréation n'est plus guère naturelle. Ou alors, il faut renoncer à tout. Il faut renoncer à l'accouchement, aux cliniques, aux médicaments. Donc, l'argument de la référence à la nature me paraît absolument impossible à tenir.
Agathe Cagé.
La PMA pour toutes ne modifient absolument pas les modes de procréation tels qu'ils existent aujourd'hui. On n'a pas de choix éthique nouveau fait avec l'adoption de cette PMA. Vous avez la possibilité qui était ouverte à des couples hétérosexuels qui va être élargie à des mères célibataires et à des couples homosexuels, à des couples de femmes. Vous n'avez ni choix éthique nouveau, ni changement des modes de procréation. Donc ce n'est pas un sujet qui éthiquement pose débat aujourd'hui à mon sens.
Bon, alors même si sur le plan bioéthique, il ne fait plus débat selon vous. Sur le plan politique, il peut avoir un avantage si on observe les choses de manière un peu plus cynique, c'est qu'il peut contribuer à fissurer la droite Agathe Cagé et, autrement dit, à mettre ce camp qui est aujourd'hui dans une situation, comment dire, délicate, dans une situation encore plus délicate. Est-ce que c'est pas tout simplement aussi de la politique ?
Politiquement, vous avez un rééquilibrage des forces à droite, vous avez un nouveau parti de droite, La République En Marche, qui est en train de s'imposer sur la scène politique française. Vous avez un ancien parti de droite, Les Républicains, qui est en train de s'effondrer sur la scène politique française. Sans doute, La République En Marche sera un parti qui défendra dans une politique de droite la PAMA. Mais ça, je pense pas que sur ce sujet-là, des fractures énormes vont apparaître. C'est un sujet quand même qui devient relativement consensuel. Et en plus, on est uniquement sur l'application d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Donc le choix pour Emmanuel Macron aujourd'hui par rapport à la PMA, c'est est-ce que je fais tout pour mettre en œuvre ou pas une de mes promesses de campagne. Si je le fais pas, c'est un renoncement. Si je le fais, ça me semble pas être un instrument majeur de fracture de la droite.
Consensuel, déjà probablement pas parmi ceux qui avaient voté pour François-Xavier Bellamy aux européennes et qui pouvaient ou qui peuvent être tenter pour une partie d'entre eux de rejoindre la majorité présidentielle, Pierre-Henri Tavoyot ?
Oui, au sein de la droite, pardon, ça crée incontestablement un clivage qui va être un clivage profond. Alors encore une fois, sur ces sujets, les postures idéologiques collent pas très bien parce que c'est vraiment des sujets compliqués et techniques. C'est-à-dire que la question de la filiation, la question du remboursement, c'est à ce niveau-là
mais
que vont se situer
les idéologiques, ce type de débat. Non. Je veux dire par là que les individus, sauf ceux qui sont directement concernés, parlent du point de vue de leurs valeurs, de leur représentation.
Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est encore une fois, chacun a ses convictions. La question est de savoir, c'est est-ce que mes convictions valent pour les autres. Et ça, il faut des arguments. Voilà. Donc
j'ai l'impression que dans ce débat-là, il y a certains qui veulent imposer leurs convictions et leurs opinions aux autres.
Mais de façon plus générale, la vraie question, une démocratie, c'est un régime qui rend l'alternance possible. Et aujourd'hui, la seule alternance possible et crédible, c'est vrai que c'est du côté du Rassemblement National. C'est ça le véritable problème dans le rebrassage des cartes. On se dit aujourd'hui, voilà, si on prenait la carte aujourd'hui, la seule alternance qui pourrait se dessiner, c'est la question du Rassemblement National. Et c'est là le problème. C'est comment, en effet, parvenir à retrouver une alternance possible qui soit, si je puis dire, raisonnable et qui reste dans les clous d'une république et non pas dans les clous d'une tendance populiste. Et c'est là le vrai défi.
Vous êtes d'accord avec ça, Agathe Cagé ?
Je pense qu'il y a un défi, en effet, à construire pour demain, presque dans l'immédiat. Si l'opposition qu'on voit, qui a été construite pour les élections européennes, est uniquement entre La République En Marche et le Rassemblement National...
Mais est-ce que déjà c'est le cas pour vous ?
Oui, aujourd'hui, en l'état de la situation, l'opposition politique majeure, si vous voyez, parce que la gauche est éclatée et parce que les Républicains ne savent plus du tout où ils habitent. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de monde qui habite chez les Républicains. L'opposition, aujourd'hui, elle est entre La République En Marche et le Rassemblement National. Pour moi, La République En Marche, se positionnant sur un spectre qui peut couvrir quasiment l'intégralité de la droite de gouvernement, l'opposition est à construire du côté des partis de la gauche.
Vous qui avez été engagé,
et de l'écologie.
Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Vous qui avez été engagé auprès de Benoît Hamon, et c'est quand même un constat difficile parce que ça signifie que la prophétie d'Emmanuel Macron s'est réalisée, qu'il y a effectivement ou bien La République En Marche ou bien le Rassemblement National.
Je ne sais pas si c'est une prophétie qu'avait annoncé le président de la République. En tout cas, c'est une construction politique telle qu'elle est en train d'apparaître, mais cette construction politique qu'on a vue aux élections européennes n'est pas forcément, et je pense qu'elle ne sera pas la construction politique telle qu'elle apparaîtra en 2022. Mais en effet, il faut savoir que c'est extrêmement dangereux dans un pays qui a soif d'alternance. On l'a vu, on l'avait vu au moment des septennats, vous aviez une alternance au sein des septennats. Dans un pays où il y a soif d'alternance, vous ne pouvez pas avoir une stratégie du parti unique ou le Rassemblement National. Et en ce sens, la tribune de Marlène Schiappa et de quelques autres dans le JDD dimanche dernier m'avait semblé relativement dangereuse. C'est-à-dire,
que disait-elle cette
tribune disait, vous avez le parti La République En Marche qui est en défense du pays ou le Rassemblement National. Donc tous ceux qui seraient pour le succès de la France doivent venir à La République En Marche, ou sinon vous faites le souhait de l'extrême droite au pouvoir. C'est extrêmement dangereux. La France a besoin de la construction d'une opposition entre La République En Marche, parti de droite, une autre opposition, et il y aura un Rassemblement National qui sans doute va rester fort dans notre pays. Mais s'il n'y a que La République En Marche ou le Rassemblement National, L'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, malheureusement, se fera à un moment donné dans ce pays.
Mais Pierre-Henri Tavoyau, vous qui avez publié « Comment gouverner un peuple roi », est-ce véritablement ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce le peuple roi ? Parce que donc ce face-à-face entre La République en marche et le Rassemblement national, il concerne une partie des électeurs. Alors on peut considérer que c'est une partie substantielle, mais ce n'est pas la totalité des électeurs, et c'est encore moins la totalité du peuple français. Comment expliquer l'évaporation des électeurs et le fait finalement qu'on se retrouve avec un face-à-face qui peut-être ne satisfait pas tous les Français ?
Je pense que le cœur de la crise des démocraties, c'est vraiment l'idée d'impuissance publique. C'est pas la crise de la représentation, comme on le dit si souvent, c'est la question de l'impuissance publique. La promesse démocratique, c'est comment le peuple devient maître de son destin. Et aujourd'hui, individuellement et collectivement, nous avons le sentiment d'être face à des murailles d'impossibilité, à une impuissance globale du fait de la mondialisation, c'est-à-dire que la France perd toute espèce de marge de manœuvre. Donc le vrai défi, et c'est pour ça que les démocraties illibérales ou les populismes sont des grandes tentations, parce qu'elles nous disent, grosso modo, on va prendre quelques libertés avec les libertés, mais ça va être efficace, vous allez voir ça. Bon, le programme est un peu obscur et un peu... Voilà, c'est ça la tentation, mais c'est ça la tentation. Et ça fonctionne. Donc le grand défi d'un parti de gouvernement, c'est de dire, nous aussi on est efficace, mais nous, on garde les libertés. Voilà, on garde les libertés, on garde les grands équilibres, et c'est ce défi de retrouver de la maîtrise qui, à mon sens, est vraiment le défi de la démocratie. Dans démocratie, on l'oublie toujours, il y a démos, mais il y a kratos. Et quand il y a kratos, quand il n'y a plus de kratos, il n'y a plus non plus de démos. Aujourd'hui, le défi, c'est retrouver de l'efficacité.
Agathe Cagé.
Je peux qu'abonder en ce sens. Les Français aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre qu'on leur annonce qu'on a sauvé une activité industrielle et que quelques mois plus tard, cette activité industrielle n'est finalement pas sauvée. Ils ont du mal à comprendre, même s'il y a des réalités derrière, qu'au regard de la crise des urgences, la ministre de la Santé vienne dire aux urgentistes « Je ne peux pas recruter davantage de médecins. » Bien sûr qu'un gouvernement paye le poids des choix passés et que l'action publique est une action publique extrêmement compliquée. Mais en effet, ils attendent des résultats de cette action publique et trop de renoncement dans la conduite de l'action publique ne peut conduire finalement qu'à la montée des populistes parce que l'incompréhension par rapport à l'absence ou à la faiblesse d'un certain nombre de résultats justifie pour un certain nombre de nos concitoyens le fait qu'en effet, ils pourraient renoncer à un certain nombre de libertés pour avoir davantage de résultats sur le plan social, sur le plan économique. Et ça, c'est extrêmement dangereux, d'où la responsabilité double pour moi des partis de gouvernement. La première des responsabilités, c'est prendre des engagements qu'ils seront à même de tenir. Et la deuxième des responsabilités, c'est une fois au pouvoir, tout faire pour tenir les engagements qu'ils ont pris.
Mais comment expliquez-vous, Agathe Cagé, que la gauche française ait été dans l'incapacité, ensuite, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça, à prendre en charge la colère qui s'est exprimée au travers de la crise des Gilets jaunes, qui aurait pu permettre sur des revendications telles que le pouvoir d'achat, telles que le non-abandon des services publics. Ça, ce sont des thèmes de gauche. Pourquoi la gauche est-elle dans un état qui semble aussi atomisé, un état d'impuissance ?
La gauche française a tout à reconstruire. Elle a notamment à reconstruire un projet positif, concret, à proposer aux Français. Il suffit pas pour elle, il ne s'agit pas pour elle. En tout cas, ça n'aurait aucune utilité de courir derrière un mouvement social qui s'est construit et a pris de l'ampleur indépendamment des responsables politiques de gauche. Il s'agit pour elle, dans les prochains mois, de construire un projet qui est tourné vers l'ensemble des Français et notamment vers les classes populaires que la gauche française a depuis longtemps abandonné. Un projet concret, positif, une vision de prendre des engagements et de prendre des engagements qu'elle tiendra. La gauche française échouera si les Français ont l'impression qu'elle prend des engagements qu'elle ne tient pas, et la gauche française échouera si elle propose uniquement quelques mesurettes gestionnaires et pas un vrai projet de société aux Français.
Vous en pensez quoi, Pierre-Henri Tavoyau ?
Je pense que les résultats aux européennes sont très marquants de ce point de vue-là, sur cette attente d'efficacité. Les trois mouvements qui arrivent en tête, ce sont trois mouvements qui expriment un appel à la maîtrise. Le Rassemblement national, c'est la question migratoire. Comment on retrouve la maîtrise en Europe sur ces questions ? L'écologie, c'est la maîtrise des grands défis de l'environnement. La République en marche, c'est comment on fait porter la voix de la France au sein de l'Europe et de l'évolution future de l'Europe. Donc, il y a un appel à la maîtrise qui est absolument évident. La question et le choix qui se présente à nous aujourd'hui, c'est cette maîtrise sera-t-elle du côté d'une logique un peu populiste qui, encore une fois, prendra des libertés avec les libertés, ou alors une logique qui sera une logique conforme aux grands principes de la démocratie.
Un mot de conclusion, Agathe Cagé.
Je pense que Édouard Philippe a lancé hier alors un acte 1,5 ou un acte 2 en tout cas. Il a donné un certain nombre d'éléments de son calendrier législatif et des mesures à venir. Il faut voir s'il y a un sens global qui est donné à la politique que conduira le gouvernement. En tout cas, vous avez des oppositions qui sont totalement à reconstruire parce qu'en reconstruisant des oppositions fortes, ça sera des choix démocratiques qui seront proposés aux Français et c'est vraiment ce dont ce pays a besoin.
Agathe Cagé, faire tomber les murs chez Fayard, Pierre-Henri Tavoyau, comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique chez Odile Jacob.